Salut la gang, bienvenue à ce deuxième épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, je reçois Katayoun Katami de Unique Event. C'est une entreprise de gestion et planification d'événements à Montréal. Ça veut dire que si vous aimez les mariages et les parties de bureau, c'est la personne à connaître absolument. Et il faut savoir que c'est également la personne qui a organisé mon mariage. Donc, on avait beaucoup de choses à se dire parce que Katayoun a toute une grande expérience au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des femmes de fer, justement, qui décident de partir leur entreprise. Alors, j'arrête de parler et on écoute l'entrevue dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Katayoun, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette super entrevue.
Avec grand plaisir. Je me sens privilégiée.
C'est excitant parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, Katayoun et moi travaillons ensemble à développer sa compagnie. Et je veux juste tout de suite embarquer dans le bain, Katayoun. Je veux qu'on explique un peu c'est quoi ta compagnie. Tu es présidente, CEO de Unique Event. Est-ce que je peux dire CEO? En tout cas, tu es la première femme derrière Unique Event. Je te laisse un peu l'honneur d'expliquer c'est quoi.
Mais dans le fond, Unique Event, c'est une compagnie de planification d'événements de tout type. On fait beaucoup de mariages, mais on fait aussi énormément d'événements corporatifs, donc conférences, etc.
Et je sais que tu as un parcours atypique et moi, ça m'a vraiment surpris dès le début, depuis qu'on travaille ensemble, parce que ça fait combien d'années que tu as Unique Event?
En fond, j'ai parti Unique Event en 2012, donc ça fait 7 ans déjà.
Et qu'est-ce que tu faisais avant?
Ben moi, je suis ingénieure chimique de formation, en fait. Donc,
J'aimerais juste souligner que tu es ingénieure chimique. Le lien entre tes deux est quand même loin.
Donc, c'était ma formation et j'ai travaillé pendant 7 ans. Presque 8 ans dans l'industrie pharmaceutique. Donc, comme gestionnaire de projet, comme gestionnaire en général, là, j'avais un département à moi avec des employés.
Fait qu'on peut quand même dire que tu avais monté les échelons dans cette compagnie-là.
Oui, en effet.
Tu étais rendue avec un bon poste?
Oui, c'est un très bon poste, surtout pour l'âge que j'avais. Je faisais un super bon salaire aussi. Donc, vraiment, c'était pas. Ça a paru étrange à beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi, ce que j'ai fait là.
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé justement dans ta tête quand tu t'es dit, bon, là, ça fait plusieurs années que tu travailles dans cette business-là, tu as monté les échelons. Tu sais, normalement, ce genre de job-là, quand on monte les échelons, ça fait longtemps qu'on voulait être là, ou en tout cas, c'est un but dans notre vie d'être là-dedans puis d'évoluer dans ce domaine-là, au moins, ou peut-être de changer de compagnie, mais pas nécessairement de complètement virer notre vie. À 180 degrés, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire finalement, c'est pas ça que je veux faire?
Je vais aller faire des mariages.
Oui,
je pense que juste pour revenir un peu en arrière, tu sais, je pense que je suis quelqu'un d'assez positif là, dans la vie, d'optimiste, je vois le bon côté des choses. Fait que, tu sais, quand je suis dans quelque chose, en train de faire quelque chose, c'est sûr que je vois pas mal toujours le côté positif, puis je trouve des choses que j'aime, puis je pense que ça, je le faisais pas nécessairement consciemment à l'époque. Donc, tu sais, même à l'école, j'aimais l'école, j'étais bonne à l'école, j'aimais les maths, j'aimais les sciences. Donc, c'était comme un parcours naturel que d'aller en ingénierie. Après ça, une fois que j'ai gradué, par contre, j'étais comme, ah ouais, non, moi, le 9 à 5, je pense pas. Tu sais, je suis partie en voyage en me disant, ah, en revenant, je vais trouver le miracle. Puis en revenant, finalement, j'ai donné mon CV à une amie qui travaillait dans cette compagnie-là, puis pouf, j'ai eu la job.
OK.
Puis, tu sais, quand on commence, on est jeune, on travaille beaucoup. Puis, tu sais, j'avais pas beaucoup de responsabilités, j'avais de l'argent. J'étais comme, mais c'est le fun. La job était le fun aussi. Fait que, tu sais, tu fais juste continuer, puis tu reçois des tables dans le dos, je reçois des promotions, t'as ton entourage qui est fier de toi, parce que c'est comme le chemin typique à suivre. Puis, j'étais quand même bien là-dedans, mais en me disant toujours, ah, j'aimerais ça avoir plus de liberté. Je détestais le 9 à 5, d'aller toujours à la même station de métro, de monter les escaliers roulants avec tout le monde, avec ta boîte à l'autre. Je dis vraiment, moi, mon conjoint aime le 9 à 5, a besoin de cette stabilité-là et je dirais probablement plus de la
beaucoup
moitié
de monde
ont besoin de ça. Mais moi, ça ne m'allait pas, mais je le disais pas nécessairement, puis je me disais, ben c'est ça la vie, tu sais, fait que je connaissais rien d'autre, tu sais, fait que voilà.
C'était vraiment un parcours naturel, tu t'es pas vraiment posé des questions.
Non, pas nécessairement, puis j'étais pas malheureuse non plus, là. C'est important de le dire, là. Les gens qui m'ont vu changer, ils disaient, ben voyons, t'avais l'air heureuse, puis j'étais heureuse, là, c'était pas... Mais tu sais, il me manquait un petit quelque chose, la petite voix intérieure qui me disait, voyons, il me semble que c'était pas ça, tu sais, que je voulais. Mais après ça, ça repartait parce que j'aimais mes employés, j'aimais mes collègues, la job était quand même intéressante, j'avais un bon salaire, donc tu sais, rien ne justifiait de juste claquer la porte. Mais c'est juste une histoire rapide, tu sais, j'ai eu quand même beaucoup de promotions, surtout vers la fin, puis j'avais quand même énormément de responsabilités, puis je suis quelqu'un qui me donne vraiment à 100% autant pour moi que pour mes employés. Donc, je travaillais énormément, j'étais vraiment épuisée. Puis c'est arrivé justement un moment où j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais parce que ça ne marche plus cette vie-là. Et la chance, pour moi, a fait que le secteur où je travaillais a fermé le centre de recherche où j'étais. Donc, ils m'ont offert d'autres postes ou un package de départ et j'ai décidé de prendre le
paquet.
Le paquet, j'ai de partir encore une fois en voyage en me disant, bon, qu'est-ce que je fais? Mais en me disant que c'était un peu l'opportunité qui était parfaite pour repenser à ma vie et repenser à mes priorités.
C'est quand même spécial que tu dises, pour moi, c'est une chance que le département ferme parce que ça a dû être négatif dans la vie de beaucoup de monde autour de toi.
Oui. Puis c'est pour ça que je le dis, là, parce qu'il y a beaucoup de monde que leur vie a carrément chamboulé là, avec ça. Moi, j'étais à un âge et avec des responsabilités où ça n'avait pas un impact direct sur ma vie. Donc, pour moi, c'était une chance parce que j'étais justement en questionnement de qu'est-ce que je fais.
T'es parti en voyage et là, t'es revenu.
Je suis revenue un peu plus tôt parce que mon frère se mariait. Donc, je l'aidais un peu pour ça. Et j'avais une collègue qui se mariait aussi avec une wedding planner. Et qui, elle, a eu l'éclair de génie en disant « Mais pourquoi tu ferais pas ça? » Et j'ai tellement ri d'elle. J'étais comme « Mais voyons donc, je vais pas devenir wedding planner. » Mais petit à petit, l'idée a fait son chemin. Puis je me suis dit « C'est pas en étant assis dans mon salon que, Eureka, je vais trouver mon idée. » Mais je savais que je voulais plus retourner employée. Puis une fois que j'ai mis, tu sais, mes forces, mes faiblesses, puis aussi ce que j'aime, ce que j'aime pas, puis surtout le mode de vie que je veux et le mode de vie que je veux pas. Mais là, de devenir travailleur autonome, c'était comme évident, malgré toutes les insécurités financières, etc. Mais tu sais, j'avais par chance ce package-là qui m'assurait un an et demi de salaire quasiment pour me dire, bon, mais là, j'ai le droit là, de... je considère que j'ai le droit de prendre ce risque-là et d'essayer ça en me disant que tu sais, c'est pas une idée si farfelue non plus, c'est de la gestion de projet. On a des clients, des budgets, des deadlines, donc ça ressemble vraiment étrangement à la job que je faisais avant, mais dans un tout autre domaine.
Comment t'as commencé? Est-ce que tu t'es tout de suite dit « je vais fonder ma compagnie » ou t'as essayé de regarder avec d'autres wedding planners? Comment t'as réussi à te dire « je rentre dans ce milieu-là » comme...
J'ai suivi une petite formation en ligne. Après ça, j'ai vraiment décidé de plonger en me disant je vais commencer. Ben, tu sais, j'ai quand même rétréci le. Tu sais, j'ai pas dit je vais faire n'importe quel événement ou whatever. Fait que j'ai vraiment essayé de focuser mariage. Je me suis dit je pense que je vais plus être en contrôle d'un plus petit événement avec des clients. Qui vont me ressembler peut-être un peu plus. J'ai regardé un petit peu, est-ce que je devrais faire un stage avec une wedding planner ou non? Puis finalement, c'est une amie qui m'a donné la chance de planifier son mariage. Donc, j'ai planifié son mariage, j'ai aidé mon frère. Puis je me suis dit, bon, je pense que je vais me lancer en faisant quelques événements cette année, puis vraiment en mettant toute mon énergie à apprendre le domaine, à connaître les gens du milieu. Donc, tu sais, j'ai vraiment appelé beaucoup de gens. Il y a eu des gens très généreux qui m'ont fait part de leur expérience, puis je me suis vraiment lancée. Donc, ça a été assez abrupt comme côte à monter, mais tu sais, en y allant étape par étape, puis en décidant pas de booker une année de feu non plus. Là. Donc, j'ai vraiment pris juste quelques clients au début, puis je me suis concentrée à bien faire ces quelques mariages-là.
Puis après ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le bouche-à-oreille de tes clients, des gens, des fournisseurs avec qui tu as travaillé pour ces mariages-là?
Comment ça qui est arrivé? Donc, même je me suis pris un kiosque au salon Marions-nous en me disant, c'est ça, ça va être mon risque, là, mon investissement financier, ça va être ça. Puis je vais vraiment raconter mon histoire, puis je suis sûre, tu sais, qu'il y a des gens qui vont me faire confiance avec le parcours que j'ai, qui vont me dire, ben oui, tu sais, je pense qu'elle serait capable de gérer ce projet-là. Donc, vraiment, après ça, j'ai eu des clients qui me ressemblaient. Donc, j'ai eu des ingénieurs, j'ai eu des médecins, j'ai eu des comptables qui m'ont fait confiance. Mes prix étaient quand même bas aussi quand on commence. Puis après, ben après la première année, vraiment, ça a été du bouche à oreille.
C'est quand même le plus gros pas à se lancer au départ, de dire, j'approche des gens que j'ai aucune idée comment ils travaillent, mais aussi qui ont probablement, eux autres aussi, leur chouchou de leur côté au niveau des wedding planners, c'est d'entrer dans une gang finalement qui faut qu'ils t'ouvrent cette porte-là, non?
Oui, qu'ils t'ouvrent cette porte-là, mais tu rencontres aussi des gens qui sont en train de débuter comme toi, puis là, ça fait 7 ans, puis je vois qu'il y a toute une nouvelle gang, tu sais, de planners, de photographes, de fleuristes qui apparaissent, puis qui font leur bout de chemin ensemble, puis c'est vraiment comme ça qu'on bâtit un réseau. Donc, au Salon Marionneau, j'ai rencontré une photographe qui c'était aussi sa première année. On est devenus, là, en ce moment, on est de très, très bonnes amies. Donc, tu sais, on a commencé ensemble à brainstormer un peu sur comment partir sa compagnie. Puis, tu sais, on a appris ensemble. Puis, c'est sûr qu'après ça, j'ai aussi été voir des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui ne répondait pas à mes courriels, là, mais il y en a aussi qui ont pris le temps, qui ont pris un 15 minutes au téléphone pour me parler ou qui ont pris le temps de me rencontrer pour un café. Pour me faire part de leur expérience. Fait que tout ça, accumuler, puis on apprend aussi de nos erreurs, etc. Fait que, tu sais, se bâtir une communauté, c'est vraiment le fun parce que c'est quand même seul comme travail. Là, on n'a plus de collègues, on ne veut plus au bureau. Donc, tu sais, je pense que c'est important d'aller d'aller dans des événements comme ça ou d'autres événements, là, selon le milieu où on décide de se lancer, mais de faire des liens avec des gens, soit qui commencent comme nous pour un peu partir ensemble puis faire notre petit bout de chemin et de profiter de l'expérience de d'autres qui ont déjà fait ce chemin-là.
Est-ce que tu as des regrets dans tout ce que tu as fait?
J'ai pas de regrets par rapport à ce que j'ai fait, mais peut-être à comment je me suis sentie au début quand j'ai voulu partir ma compagnie. C'est sûr que je viens d'un parcours traditionnel, d'une famille quand même traditionnelle. Mon entourage, là, qui était beaucoup aussi des ingénieurs ou qui ont travaillé avec moi dans cette compagnie-là, qui ont un parcours plus traditionnel. Et pour eux, vraiment, là, ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de vivre ou ce que j'étais en train de faire. Donc vraiment, tu sais, j'ai tellement eu des mots genre « Ah, ben c'est juste une passe, tu sais, ça va passer » ou « Tu dois vivre un petit moment difficile » ou...
Ils te prenaient pas au sérieux, là.
Non, vraiment pas. Puis écoute, plusieurs années après, là, où tu sais, il y a des gens qui me disaient « Mais là, tu vas-tu te chercher une job? » Puis j'étais comme « Ben, je travaille. » Et jusqu'à récemment, tu sais, quand vraiment quelqu'un s'est rendu compte que « Hey, ça allait bien mes affaires », puis la personne a dit « Hey, fait que ça marche ton truc? » Je suis comme « Mais oui, ça fait juste 6 ans que je suis en train de faire ça, puis que je paye une hypothèque. Mais donc, tu sais, vraiment, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté, tous ces petits mots-là anodins, là, aux yeux de beaucoup, ou tu sais, des regards, ou ah, ben toi, on le sait bien, tu travailles pas, ou tu sais, des trucs comme ça. Puis ça m'a vraiment affecté. Puis en fait, c'est mon seul conseil, c'est de s'en foutre et de. Maintenant, je ris, là, intérieurement, parce que j'ai tellement l'impression que j'ai comme gagné ma vie, tu sais, j'ai regagné le contrôle de ma vie, puis que je fais vraiment quelque chose que j'aime et dans des conditions que j'aime, puis qui m'apporte une vie incroyable, que ces commentaires-là, en fait, j'ai comme pitié parce que je me dis, OK, ils n'ont vraiment pas compris là, mon parcours, ni ce que je veux, ni ce que la vie peut être, tu sais, à l'extérieur de ces parcours traditionnels-là. Donc, je regrette d'avoir laissé ces choses-là m'affecter à l'époque.
Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour ne pas les laisser rentrer, ces commentaires-là, pour ne pas les prendre personnels?
Mais je pense que, tu sais, il y en a, puis je généralise pas, il y en a que ça vient de leur propre insécurité ou insatisfaction. Il y en a d'autres que c'était vraiment des gens qui s'inquiétaient pour moi, fait que j'aurais dû répondre, mais tu sais, quand tu commences, t'es pas confiante toi non plus, donc tu sais, ça brime un peu ta confiance, mais je pense que ultimement, maintenant, tu sais, j'écoute tellement justement de podcasts, je lis tellement d'histoires inspirantes, je suis des entrepreneurs, donc tu sais, ça rend ça normal, mais à l'époque, moi, tout ce que je connaissais, c'était des gens qui avaient été à l'université, qui avaient obtenu leur diplôme, qui travaillaient dans des jobs, qui montaient les échelons, puis c'était ça qu'il fallait faire. Donc, tu sais, je pense peut-être de commencer à reconstruire un petit peu un autre cercle avec d'autres types de vie, d'autres références, ça aurait pu m'aider pour dire, ben non, mais c'est normal ce que je fais, c'est juste que c'est pas votre normalité.
Mm-hmm. Mais en même temps, ça nous donne quand même un petit boost et ça nous force à se dire, mais let's go, vous allez voir, moi, je vais être capable de le faire. Puis après ça, t'es fière de le montrer, comme tu dis, t'as gagné finalement.
Absolument. Dans les bonnes journées, ça marche. Mais tu sais, comme tu sais, là, comme entrepreneur, on n'a pas juste des bonnes journées. Donc, s'il fallait qu'un de ces commentaires-là tombe une journée où j'étais justement moi aussi un petit peu en remise en question, ben c'est quand même assez dur. Là.
Justement, tu dis que t'es très seul, même si tu vois beaucoup de monde, ça reste que c'est un travail seul.
Ben oui, l'entrepreneuriat en général, c'est un travail assez seul, même si, tu sais, bon, là, j'ai des gens qui travaillent avec moi, pas à temps plein, mais quand même, mais personne ne partage le risque qu'on partage, personne met ces heures-là à 1h du matin, quand on fait la comptabilité, on porte tous les chapeaux, je pense que c'est aussi ça. Mais, donc oui, c'est un travail seul, et c'est pour ça, mais par contre, c'est sûr qu'en événement, je suis avec des gens, j'ai des clients que je rencontre régulièrement, des fournisseurs, je veux dire, il n'y a pas une semaine où je passe une semaine à mon bureau, là. Des journées où je vois personne. Et maintenant, j'ai un bureau donc, que je partage avec des gens aussi. Donc, c'est le fun d'avoir ce contact humain-là. Mais c'est sûr que c'est un gros choc là, de passer d'une vie où on a des collègues et des employés à être entrepreneur seul dans son salon.
Oui, mais toi, tu m'écris à 1h du matin et moi, je te réponds à 7h du matin. On n'a pas le même flot de travail.
Mais non, exactement. Puis, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce pas-là. C'est cette flexibilité-là. Pour moi, tu sais, le mot qui revenait tout le temps, c'était la liberté. Moi, je suis pas quelqu'un de matinal. Mes employés commençaient à 6h30 du matin dans mon ancienne vie. Donc, quand j'arrivais à 7h, j'étais déjà en retard. Et je suis vraiment pas quelqu'un de matinal. Je travaille bien le soir. Donc, tu sais, d'avoir cette flexibilité, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, là. C'est incroyable.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast.
Donc, tu mentionnais tantôt que tu avais des employés à temps partiel ou à contrat avec toi?
Oui, dans le fond, c'est des pigistes qui sont à contrat. Ce n'est pas des employés formels là, d'une équivalent. Dans le fond, la charge de travail aussi que j'ai en ce moment, ou en tout cas le nombre de contrats que je prends, ne me permet pas d'avoir des employés à temps plein à l'année longue. Donc, c'est vraiment des pigistes qui travaillent un certain nombre d'heures par semaine que eux peuvent m'accorder et que moi, j'ai du travail pour eux aussi. Donc, c'est comme ça que je fonctionne en ce moment.
Après, maintenant que ça fait 7 ans que tu travailles sur Unique Event, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer?
Mais j'ai vraiment aimé le processus. Pour vrai, moi, si j'avais à conseiller quelqu'un, je dirais peut-être ça serait le fun de faire un été ou avec une autre planner pour apprendre. Mais c'est que moi, je me sentais pas à l'aise de faire ça, sachant que mon plan était d'avoir ma propre compagnie. Donc, personnellement, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais je me fais approcher par des gens qui clairement disent « je veux de l'expérience pour faire ça ». Puis j'en ai pris aussi là, des étés, des gens qui voulaient apprendre, sachant qu'ils voulaient faire ça. Si j'avais pu avoir la confiance que ça va marcher, mais c'est sûr qu'on ne le sait pas au début, mais quand on met les efforts, honnêtement, c'est rare que ça ne marche pas, même si ce n'est pas le plan initial, là, mais je pense que j'ai dit oui trop vite à trop de choses. Je pense que c'est important de choisir les mandats sur lesquels on veut travailler parce que ça définit vraiment l'image de la compagnie. Disant non aux choses qui nous font moins, on se retrouve à dire oui aux vraies choses qui vont vraiment définir le parcours de la compagnie. Puis de mettre les prix aussi à un niveau, il faut un peu reconnaître sa valeur, là, même si on commence. Je pense que c'est pas correct de mettre des prix trop bas, là, juste pour avoir n'importe quel client. Donc, tu sais, je pense que j'aurais peut-être dû mieux commencer ça puis dire oui aux bonnes choses et aux bons prix.
Parce que, dans le fond, quand on commence, c'est difficile de dire non. On sait pas qu'est-ce qui s'en vient, puis on se dit, mais il faut que je fasse de l'argent, il faut que j'aie des contrats. Fait qu'on va dire oui à plusieurs clients. Des fois, on va baisser nos prix. Puis, ça va nous amener un peu, parfois, des belles surprises, comme on se dit, ah, une chance que j'ai dit oui à ce contrat-là qui m'a peut-être pas amené beaucoup d'argent, mais peut-être de l'autre côté, ça me fait des belles photos, un beau portfolio, des trucs comme ça. Mais l'autre côté, il y a aussi le fait que si on baisse nos prix, on va peut-être passer beaucoup, beaucoup de temps sur quelque chose qui est vraiment difficile puis qu'on n'est pas nécessairement fier ou que ça colle pas à notre compagnie.
Exactement. Puis qu'après, souvent, c'est du bouche à oreille aussi. Là. Donc après, tu es un peu pris avec ces prix-là parce que tu t'es fait référer. Donc, c'est un peu dur de s'en sortir.
Puis quand on parle justement des clients, est-ce que tu as des trucs pour bien comprendre le client que tu vas visiter, voir, rencontrer au départ? Est-ce que tu es tout de suite capable de comprendre le client?
Je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, donc je prends pas nécessairement trop de place en partant. C'est sûr, je présente mon parcours. Mais après ça, je les laisse vraiment parler. Puis c'est ce que j'aime le plus, c'est de rentrer dans le monde de mes clients. Donc, tu sais, quand c'est des mariages, ben là, c'est encore plus facile parce que c'est des gens qui ont des parents, des amis, une vie. Donc, c'est vraiment facile de rentrer dans leur vie. Je pose beaucoup de questions, donc ça m'apprend à savoir où est-ce qu'ils sortent, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'ils ont des enfants. Donc, on rentre un peu plus du côté personnel. Du côté corpo, je pose quand même aussi beaucoup de questions, plus sur leurs priorités, leur charge de travail, etc. Mais je les écoute énormément au début, les premières rencontres. Puis après ça, ben, des photos. Je trouve que des photos, ça vaut mille mots. Donc, tu sais, souvent, j'essaie de bâtir un premier jet là, avec des photos de ce que j'ai cru comprendre de nos premières conversations. Puis, tu sais, si je suis vraiment dans le champ, ben, c'est facile de dire non, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. C'était l'affaire, plutôt que de m'enligner pendant des semaines à travailler sur quelque chose qui rentre pas dans leur cadre. Donc, je pense que cette première rencontre-là est très importante. Puis, c'est vraiment un moment où il faut être assez fort pour que, même si le client dit oui, mais que toi, tu dis non, je vais passer une année d'enfer parce que je pense pas que le fit est bon, puis ça coule pas, puis on se comprend pas vraiment. Je pense qu'il faut être assez confiant pour dire non à ce genre de rencontre-là aussi.
Tu as déjà refusé un client après les avoir rencontrés?
Oui, oui. Je ne serais pas...
Non, mais ça t'est déjà arrivé, mais est-ce que tu te sentais bien quand tu as fait ça?
Oui, je me sentais super bien. Ça a été dur un peu, mais c'est que je me rappelais de mes erreurs du passé où j'avais ce petit feeling-là, puis je me disais, oh, mais non, c'est correct, ça va être beau, ça va être le fun, j'ai jamais travaillé dans cet endroit-là, ça va être le fun, puis je l'ai pris malgré cette petite voix-là. J'ai appris à l'écouter, cette voix-là.
C'est quoi ton prochain grand défi au niveau de Unique Event? Parce que là, ça fait 7 ans, tu es bien installée dans le milieu du mariage, on peut dire ça.
Ouais.
C'est quoi ton prochain grand défi?
Ça va être vraiment de développer le volet corporatif. Donc, j'en fais déjà, mais j'aimerais vraiment pousser un peu plus ce côté-là. Comme tu dis, le côté mariage, là, on est complet très tôt dans l'année là, pour l'été suivant. Là, on book déjà pour 2020. Donc, pour ça, je pense que la réputation de Unique Event est faite du côté mariage. Le volet corporatif, ouais, j'aimerais le développer pour pouvoir justement peut-être avoir une de mes employées plus à temps plein et pouvoir grossir un peu plus Unique Event. Bon.
Quand tu as parti ton entreprise, tu étais seule dans le sens que tu n'avais pas d'employé, tu n'avais pas d'enfant, tu disais que tu n'avais pas vraiment de responsabilité autre que juste toi, finalement.
Ouais.
Maintenant, je veux quand même toucher un mot du fait que tu es mère, tu as 2 enfants.
Mm-hmm.
Comment... Parce que je suis mère maintenant. Je veux quand même avoir un petit hint, un petit conseil de ce côté-là. Comment tu as mis ta compagnie, qui est super importante pour toi, dans cette vie-là, où des enfants aussi, c'est important. Comment tu as réussi à bien mettre ça ensemble?
C'est sûr que rien de tout ça peut marcher sans le support d'un conjoint compréhensif et flexible, comme tu le sais.
Oui.
Donc, moi, mon conjoint a un travail plus de 9 à 5. Donc, dépendamment là, de l'âge des enfants, des moments où tout tombait, mais souvent, je mettais mes rencontres les soirs, les week-ends. Donc, oui, c'est sûr que je manquais du temps de famille de soir et de week-end, mais tout en sachant que c'est temporaire. T'sais, une fois qu'il rentre à la garderie, ben là, j'ai retrouvé mes journées. Mais c'est dur là, de balancer les deux. Puis on peut pas, tu sais, moi maintenant, de 4 à 7, là, j'ai plus les 5 à 7 que j'avais. Là, je suis vraiment à la maison. Donc, tu sais, si jamais j'ai une rencontre à ce moment-là, ben, il faut que mon conjoint arrive plus tôt ou que ma mère puisse bien garder. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est toute une logistique. Puis je pense qu'il faut un réseau de support. Là, puis j'ai pas vraiment pris de congé de maternité là, à la naissance de mes deux enfants. Donc, j'ai trouvé une gardienne qui pouvait venir quelques jours quand j'avais mes meetings. J'utilisais mes siestes. Hein, et les siestes sont... Mm-hmm. J'ai réussi, mais c'est sûr que c'était vraiment demandant le temps qu'il rentre à la garderie là environ. Donc la première année là, c'était quand même assez difficile.
Mais c'est faisable.
My God. Parce qu'après, c'est comme t'as la flexibilité aussi d'aller les chercher tôt à la garderie. Si je travaille un samedi, ben, je vais prendre un jeudi de congé puis je vais les garder avec moi. T'sais, c'est vraiment cette flexibilité là. Encore une fois, là, ça n'a pas de prix. Là. Vraiment, c'est incroyable de pouvoir les amener tant. On ne les réveille jamais le matin. Donc, ils se réveillent à l'heure qu'ils se réveillent. On les amène à l'heure qu'on a à moins. Évidemment, il y a des journées où on a des rencontres plus tôt. Donc là, mais je dirais 99 % du temps, ils se réveillent à l'heure qu'ils se réveillent. Puis on va les chercher quand même tôt à la garderie. Donc, c'est le fun pour eux, c'est le fun pour nous. On a des moments. Je pense que je dis toujours, là, les week-ends sont peut-être overrated. Il y a d'autres moments dans la semaine où il y a moins de monde, justement, au zoo. Là, je sais pas. Un samedi, là, même si je travaille les samedis, oui, c'est plate, mais il y a d'autres moments dans la semaine où justement on peut en profiter davantage.
Donc, être entrepreneur, femme d'affaires, femme de fer, ça existe, Katayoun.
Ah, mais c'est gentil, merci. Oui.
Et là, après cette entrevue, moi, je veux savoir comment on fait pour te contacter. C'est quoi la meilleure façon de rentrer en contact avec toi?
Allez voir mon site web, mais je dirais par courriel, c'est sûrement le plus simple. L'adresse est sur mon site web uniquevent.ca. Ça va me faire plaisir.
C'est une belle façon de te contacter. Et pour les curieux qui veulent te suivre au quotidien, je veux quand même ajouter d'aller te suivre sur Instagram uniquevent où on met plein de belles photos des mariages que tu fais. C'est toujours inspirant de regarder ça. Même si on ne se marie plus, de regarder ces photos-là, c'est toujours inspirant pareil. Merci beaucoup, Katayoun, d'avoir fait cette entrevue-là avec moi. C'était vraiment un grand, grand, grand plaisir. J'ai hâte de voir comment uniquevent va encore se développer encore plus loin.
Merci Sophie, c'est vraiment gentil. Je suis contente d'être ta première invitée.
Oui, c'est excitant.
C'est un beau projet.
Merci, merci Katayoun. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirée pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.